Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui jusqu'à 12h30 vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est vous Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
Directeur de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale qui est notre partenaire. Et donc chaque dimanche en fin d'émission à 12h25, c'est la chronique La cerise sur le gâteau. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de table, de couverts et peut-être de salle à manger.
Tout ce dont nous ne parlerons pas lors de notre émission du jour. Bonjour Natacha Triou.
Bonjour Caroline.
La Madeleine de à 12h15, c'est le souvenir gustatif de quelle personnalité aujourd'hui?
De l'écrivaine Dominique Bonnat.
À tout à l'heure, à l'occasion de l'exposition sur la préhistoire qui vient d'ouvrir ses portes au Centre Pompidou, où se tient en ce moment même le week-end Imagine de France Culture, avec un programme des plus réjouissants évidemment, Les Bonnes Choses se penchent sur ce que mangeaient les hommes du Paléolithique, et il semble bien que leur régime alimentaire fut bien plus riche qu'on l'a longtemps pensé. Foin de gibier cru et autres racines, on parle désormais œufs de tortue, gigots de kangourou, salade de fleurs et feuilles, des racines, des bulbes de nénuphar, des pistaches, des dattes, du miel, des grenouilles, des escargots, des champignons et des écorces, du pot-au-feu à la moelle et aux herbes aromatiques et des steaks de rhinocéros laineux. Alors vrai ou faux, que sait-on de la nourriture des premiers hommes et pourquoi ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisine paléo revient-elle en force dans nos assiettes?
Alors, le menu, on va avoir une salade avec des crônes, des palourdes, des herbes aromatiques en entrée. En plat, on va travailler sur une épaule de biche qui est cuisinée donc sur la pierre avec des marrons et du persil tubéreux. Le dessert, c'est à base de poire, de fruits et de miel. Il y a même une boisson qui va être réalisée avec des herbes aromatiques et une version un peu l'hydromel préhistorique, on va dire. Donc, le miel fermenté avec de l'eau, plus herbes aromatiques. Et c'est intéressant aussi de se dire, bah, tiens, ils l'ont peut-être certainement fait aussi, comme manger des fruits pourris parce que ça mettait en joie. Et voilà.
Avec nous autour de la table pour parler donc de cette cuisine préhistorique, Pascal Pic. Bonjour monsieur.
Bonjour Caroline.
Paléo-anthropologue, maître de conférence au Collège de France, voix bien connue des médias et en particulier de France Culture. On peut citer nombre de vos ouvrages, je vais me contenter du dernier, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur chez Odile Jacob. Mais je rassure nos auditeurs, ça n'a rien à voir en tous les cas pour ce qui...
Ah, qui sait, on verra.
On ne sait pas, voilà, effectivement, avec la cuisine préhistorique. Anne de Bordemunoz est avec nous, bonjour.
Bonjour Caroline.
Co-fondatrice de la marque Silex et Fourchette qui a ouvert en novembre dernier un restaurant à Toulouse. Et puis avec nous par téléphone, la voix qu'on vient d'entendre, Nicolas Poilvé, bonjour.
Bonjour Caroline.
Professeur à l'école hôtelière de Paris, CFA Médéric, chef cuisinier, vous y enseignez l'histoire de la cuisine à des élèves de CAP et de BTS. Et en décembre 2017, vous avez, avec le concours d'un paléo-anthropologue, Antoine Balzo, pour ne pas le nommé, organisé un atelier de cuisine préhistorique qui a donc donné lieu à ce menu qu'on vient d'entendre. Alors, concassé de palourdes et coques sur lit de crone en salade, pavé de biche fumée cuit sur pierre plate, châtaigne rôtie et herbes aromatiques braisées, poire au miel, estragon et cèpe cru et infusion camomille et fruits secs. Est-ce que c'était un menu typique de l'époque paléolithique, on va dire, Nicolas Poilvé? Puis je vais évidemment me tourner vers Pascal Pic ensuite.
Alors le menu, il est plutôt inventé en fait de notre part. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que sur la même zone géographique, on retrouvait tous ces produits. Et ce qui nous a plu avec Antoine, c'est de c'est justement de faire un mix, de mélanger nos techniques, on va dire, modernes avec les impératifs en fait de l'époque, quoi.
Pourtant, je pensais en travaillant cette émission, Pascal Pic, qu'il y avait d'énormes différences selon les régions du monde. Là, nous dit Nicolas Poilvé, quand même, il y avait des ressemblances et certains produits qu'on retrouvait ici ou là.
Ben là, en l'occurrence, ça aurait été un menu étoilé sur une grotte,
c'est pas
préhistorique. Mais il n'empêche qu'il faut sortir des clichés hein, de l'homme qui ne mangeait que de la viande quasiment crue et que du gibier, ça c'est complètement faux. Et en définitive, sans le dire, ce que font mes collègues, c'est quasiment de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. En se lançant dans cette grande idée de ce que pouvaient manger les hommes préhistoriques et comment ils pouvaient arranger les ingrédients entre eux. Alors on savait qu'ils avaient différentes techniques, hein, dans ce qu'on appelle la pierrade, ça a été dit par le pavé de biche, ça me donne faim, je peux vous dire. Mais également les marrons rôtis ou les châtaignes, etc., ou les herbes. Le problème, c'est que tout ce qui est végétal laisse très peu de traces, quelques traces chimiques on en retrouve, mais elles sont minimes par rapport aux ossements ou autres. D'où ces clichés. Alors maintenant, si on pense aux hommes de Néandertal, par exemple, les données nous racontent qu'ils mangeaient essentiellement de la viande. Mais c'est normal. Plus vous êtes sous les hautes latitudes, plus les ressources alimentaires sont sur pattes ou avec des nageoires. Par contre, plus vous descendez vers le sud, plus vous avez de diversité de végétaux disponibles et comestibles, alors qu'on peut rendre comestibles, c'est ça aussi que permet la cuisson. Ça, c'est important. La cuisson, c'est pas qu'attendrir, c'est pas que donner du goût. Ça permet pour les végétaux aussi de détoxifier. Ça, c'est extrêmement important. Et à partir de là, donc, l'intérêt de ce genre d'expérience qui donne l'eau à la bouche, hein, ça tombe bien, balaye effectivement tous ces éléments complètement imbéciles qu'on a eu sur la préhistoire. Et on s'aperçoit que dans tous les domaines, en définitive, hein, que ce soit les outils, que ce soit les représentations sociales, que ce soit les parures, enfin tout ce qui fait l'humanité, d'une certaine manière, est certainement beaucoup plus ancien qu'on l'imaginait. Parce que nous, on vous raconte les plus anciennes traces que l'on a, mais c'est pas les premières, bien évidemment. Alors, quand te dire qu'il y avait une telle gastronomie comme celle qui vient d'être indiquée, certainement, non, de toute façon, on le saura jamais. Mais il est très clair que là, on touche à quelque chose quand même qui est essentiel dans l'humanité et qu'on est en train de un petit peu de perdre aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée du repas. Il faut collecter les nourritures, les préparer et les partager. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, avec des compétences ou autres.
Anne de Bordemugno, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez voulu ouvrir ce restaurant à Toulouse. On va revenir évidemment sur la cuisine paléo, mais dans un deuxième temps, parce que c'est encore autre chose, même si c'est lié bien sûr à ce dont nous allons parler dans ce premier temps de l'émission. Mais ce goût pour le partage, pour la cuisine commune et puis pour ce qui est proche de chez nous.
Tout à fait. Nous, on travaille beaucoup les produits de saison. Après, chez nous, dans notre restaurant, on a vraiment des tables d'hôtes. Je voulais que tout le monde partage la même table. Ça me semble important, ce partage justement que parlait Monsieur Pic, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Après, notre cuisine est simple, c'est des produits bruts qu'on transforme nous-mêmes. Et on n'a pas la prétention d'essayer de faire comme les hommes préhistoriques. Souvent, on me pose des questions, tu sers en peau de bête, il y a un feu. Je ne suis pas dans ce cliché-là, on essaye juste de revenir aux sources et de revenir à la base des aliments qu'on prend nous-mêmes, qu'on cuisine. Et tout ce que l'industrie agroalimentaire touche, on ne peut pas y toucher, c'est forcément trop transformé, ça... Il n'y a plus de goût, il n'y a plus l'originalité vraiment des aliments.
Alors vous avez fait l'expérience, Nicolas Poilvet, on le rappelait, donc en décembre 2007, c'était un repas qui était au plus près de ce que mangeaient les hommes préhistoriques. Vous l'avez fait pour le magazine Science et Avenir. Ce côté produit brut, vous les avez travaillés avec un paléoanthropologue, c'est-à-dire que c'est pas seulement manger sain, aller chercher des végétaux près de chez vous, c'était aussi essayer d'aller trouver scientifiquement, si je puis dire, une cuisine qui était au plus près de ce qu'il mangeait, c'est ça l'idée ?
Oui, tout à fait. Alors, le manger sain, il était presque par obligation, hein, parce que finalement, l'apport de matières grasses, il était compliqué, hein, pour ces types de cuisine. Le travail sur la pierre plate, ça nous a obligés à travailler sans matières grasses, travailler directement les produits, réussir à assaisonner un produit avec un autre produit. Donc, ce qui se fait aujourd'hui en cuisine, c'est l'association terre-mer, un petit peu, et on se rend compte que c'était peut-être ça, finalement. Ce qui nous relie aux hommes préhistoriques, je pense, c'est ce côté... On aime les bonnes choses, et je pense que ça, depuis la nuit des temps, c'est ce qui relie les hommes, et encore aujourd'hui.
Pascal Pic, est-ce qu'on sait quand le plaisir est entré dans l'alimentation de l'homme ?
Oh, c'est une vieille histoire, parce que les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, mais néanmoins, les chimpanzés, qui sont l'espèce la plus proche de nous dans la nature actuelle, ont des goûts pour des nourritures qui sont plus prisées que les autres. D'ailleurs, et ces nourritures les plus prisées, comme des fruits succulents ou même la viande, parce qu'ils chassent pas mal, eh bien, font l'objet de négociations sociales pour les relations politiques, de pouvoir, d'amitié, mais aussi sexuelles. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une représentation autour de la nourriture qu'on a aussi. Car effectivement, dès qu'on est sur le plaisir et sur le goût, c'est tout l'ensemble, évidemment, de la société, des désirs, de le rapport aux autres qui se met en place. Alors ça, les chimpanzés le font. Donc, je pense pas que les Australopithèques le faisaient, parce que les pauvres, ils mastiquaient comme des damnés. Mais enfin, il y avait quand même des choses qu'ils préféraient à d'autres. Mais à partir du moment où arrive... Parce que le feu, c'est beaucoup plus ancien qu'on l'imagine. Hein. Ça remonte quasiment à 2 millions d'années.
Hein. Ah bon ?
Les plus anciens foyers, c'est 600 000 ans. Mais l'usage du feu est plus ancien. Et donc, on ne peut pas expliquer d'ailleurs le fait que les Homo erectus, qui sont les premiers vrais hommes, au sens de pas mal de paléanthropologues, d'un seul coup, ils ont une plus grande taille, un plus gros cerveau. Le cerveau, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. En plus, on sait qu'aujourd'hui, grâce à la biologie, au sens cognitif, que la manière dont on mange et le plaisir qu'on a pour manger participent de notre créativité, de notre capacité cognitive et des relations sociales. Tout ça est lié, ce qu'on appelle le processus de coévolution. Donc les inventions des cuissons et du feu vont complètement modifier l'humanité, qui va modifier sa biologie, sa physiologie, ses relations cognitives, et le plaisir participe évidemment de cela. Pour aller chercher des fruits dans la forêt, il faut quand même une certaine motivation. Et le plaisir est une des données qui avait été longtemps négligée, parce qu'on a regardé la préhistoire comme des puritains, hein, ou alors ces pauvres zères qui couraient pas leur nourriture. Le plaisir a toujours été là, ça dépend bien sûr des cultures ou des périodes, mais il est au cœur effectivement de ce qui a permis à l'humanité d'aller conquérir l'ensemble de la planète.
Je voudrais qu'on fasse un petit point chronologique, Pascal Pic. Vous avez évoqué la découverte du feu, plus ancienne donc qu'on le croyait, vers 600 000 ans pour la pratique, hein, pour la généralisation, mais plus vieille. La cuisson comme une révolution. Est-ce que on peut caractériser un certain nombre d'étapes, par exemple ce qu'on sait de Lucie? On va pas remonter à Toumaï, hein, 7 millions d'années, mais disons si on se contente de remonter déjà à Lucie, 3 millions et demi d'années. Lucie donc avait une mâchoire très épaisse, elle se nourrissait, vous disiez qu'elle mastiquait beaucoup. Se nourrissait de quoi, Lucie? Bah, déjà,
elle se nourrissait essentiellement de tubercules, de fruits, de noix, de légumineuses qui sont assez coriaces, mais dès qu'ils avaient l'occasion d'attraper des fruits, ils n'allaient pas s'en priver, et l'occasion aussi d'attraper de la viande, ils n'allaient pas s'en priver. Ça, c'était plutôt des opportunités, comme chez les chimpanzés d'aujourd'hui. Donc, ils étaient omnivores, avec une tendance très forte à consommer des tubercules, qui sont très bonne qualité nutritive, mais le problème, c'est que les parties souterraines des plantes, tubercules, bulbes, oignons, racines, etc., ce sont de bons nutriments, mais derrière, notamment, ça contient l'amidon, et c'est très difficile à dégrader. Et l'invention de la cuisson va faire sauter donc un verrou physiologique en cuisant les tubercules, et ça, c'est vraiment les premiers hommes. Ils vont s'ouvrir un accès beaucoup plus large à une diversité de ressources alimentaires. Ce grand problème des singes dans la nature, quand ils sont omnivores, frugivores, c'est d'apprendre à ne pas s'empoisonner. Donc ça, c'est des cultures, c'est transmis, c'est très compliqué. Et l'invention des cuissons va complètement permettre de détoxifier les nourritures, je le disais, de dégrader l'amidon. Et ça tombe bien, parce que notre cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. Et c'est un des éléments qui a permis l'accroissement donc de notre capacité cérébrale, en tout cas des volumes du cerveau, et nos capacités cognitives. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans les théories d'innovation, des technologies généralisées. Le feu est une technologie généralisée avec cette technique qui va complètement modifier l'accès à la nourriture, mais à notre biologie, notre physiologie, la société, la répartition des tâches, sans tomber dans les clichés, les femmes à la cuisine et les hommes à la chasse, faut faire extrêmement attention à ça. Mais néanmoins, ça va complètement changer la société avec ces institutions qui vont être autour de comment se retrouver autour d'un moment privilégié qui est le repas, en tout cas, ou les échanges de ce que les uns les unes ont collecté et les uns les unes ont chassé.
Est-ce qu'on pourrait dire que la deuxième révolution, ça a été l'agriculture vers...
Absolument.
10 000, 8 000 ans avant notre ère?
Ça commence 8 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a ce réchauffement climatique. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à éclaircir. Il y a plusieurs foyers indépendants des inventions de l'agriculture. On a 8 ou 9. Hein. Les Amériques, bien sûr, mais c'est les vallées du Gange, c'est le sud de la Chine, c'est aussi l'Afrique occidentale. Bien sûr, le Proche-Orient pour nous. Guinée. Et là, effectivement, on va commencer à produire des nourritures et à sélectionner. Par exemple, ça peut vous surprendre, mais dans la nourriture paléo, vous n'avez pas du tout de céréales. Tout ce qui est céréales, tout ce qui
Anne
est...
Anne de Bordes-Mugnos acquiesce, hein.
Oui, absolument. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre. On nous a tous appris à l'école que grâce à la culture, aux outils, on s'est affranchi des contraintes de la nature, notamment des processus de sélection naturelle. C'est faux. En fait, par exemple, digérer le lait, c'est extrêmement compliqué. Il faut les enzymes et les gènes qui vont derrière. C'est pas tous les peuples du monde qui peuvent digérer le lait. Donc, il y a une sélection sur la mortalité infantile. Comme pour le favisme, manger trop de fèves ou aujourd'hui des allergies au gluten sont des conséquences de ces innovations culturelles. Donc, les évolutions, c'est toujours des compromis. Ça nous a apporté beaucoup de choses, les inventions de l'agriculture, bien évidemment. Mais on a eu des conséquences. La taille corporelle a diminué, la taille du cerveau a diminué, nos robustesses physiques ont diminué. Et donc, vous voyez, à chaque fois, ces changements ont considérablement modifié notre évolution.
Anne de Bordes-Mugnos, est-ce qu'en ouvrant votre restaurant et même en fondant votre marque Silex et Fourchette, vous vous êtes documentée sur ce régime-là, sur cette histoire-là de la nourriture préhistorique?
Oui, je me suis documentée et je me suis vite dit « Waouh, ça va être compliqué, Anne. Part dans un paléo moderne, part de certains principes, mais je pourrais pas tout respecter. » C'est sûr qu'après cette révolution néolithique, on a beaucoup eu des aliments, on a beaucoup de choses qui ont été transformées. Et ça, déjà, je me suis dit « Fais attention à ça. » Tout ce qui est transformé, c'est pas eux ceux qui pouvaient consommer. Mais après, oui, je pense qu'avec Audrey, on a essayé de faire des recherches et vraiment essayer de se dire, bon, il y a ça, la poule n'existait pas. On fait comme on peut, le poulet, tout ça. Mais on a vraiment essayé de se baser sur des produits, se dire, tiens, il y a tant de viande, on essaye de prendre des viandes qui sont bonnes, on les travaille avec des aliments de saison. Voilà, on va pas, je vais pas rentrer dans des grands débats et je suis pas historienne et je suis pas comme Monsieur Pic, mais j'ai essayé de faire à mon niveau ce que je pouvais et faire de la nourriture qui, moi, à mon sens, je pense, pouvait s'adapter
à notre époque.
À notre époque.
Moi, je veux vous prendre un Neanderthal cheese avec des frites.
Et moi, un Big Macaque. Leur nouveau burger de singe est trop, trop bon.
Ben, moi, pareil, mais avec de la sauce mollusque en supplément.
Et vous aurez reconnu, évidemment, Silex and the City. Ouais. Natacha Triou, retour aux fondamentaux chez vous aussi.
Oui, avec Dominique Bonnard, l'écrivaine et une des rares femmes à siéger à l'Académie française. Elle a été prix Renaudot en 98 et récemment, elle a publié Mes vies secrètes aux éditions Gallimard. Alors nous parlions de l'alimentation paléolithique. L'homme de Néandertal mangeait des racines, des graines, des fruits, mais mangeait-il des abricots? Pour sa madeleine, Dominique Bonnard retourne aux fondamentaux.
Alors pour moi, la petite madeleine de Proust, ce serait plutôt des fruits de l'été. Parce que je n'ai jamais connu de saveur plus exquise que les fruits de mon enfance, les pêches et les abricots. Il y a le goût, il y a la sensation en bouche, donc c'est vraiment un plaisir exquis, un plaisir total. On pouvait les cueillir dans l'arbre parce qu'il y avait un petit jardin dans le mas. J'habitais un mas chez mes grands-parents quand j'étais très enfant. Et dans ce mas, il y avait quelques arbres fruitiers, des pêchers, des abricotiers, comme d'ailleurs dans tous les jardins de l'extrême sud. On était un peu des enfants sauvages avec mes cousins et on allait se promener dans les vignes tout autour. On faisait un peu ce qu'on voulait. Et ces fruits avaient une saveur inouïe. D'abord parce qu'ils étaient tiédis au soleil, ils n'étaient pas froids. Aujourd'hui, on mange les fruits froids, sortant du frigidaire très souvent. Et là, pas du tout. C'était des fruits tièdes, presque un peu chauds. On mangeait les abricots, bien sûr, avec la peau, et même aussi les pêches avec la peau, parce que c'était une peau très fine qu'avaient les pêches à ce moment-là. C'est très sucré, c'est très fin, très subtil. Ça a un léger arrière-goût, je crois, de fleur d'oranger. C'est bizarre, ça, mais j'essaie de décrire au mieux cette sensation. C'est presque autant une sensation qu'un goût, le fait de manger une pêche chaude en plein été, vous voyez. Et malheureusement, je n'ai jamais retrouvé des fruits comme ceux-là. Aujourd'hui, les pêches, elles sont, je ne sais pas, elles ont un goût d'eau oxygénée, elles ont une chair épaisse, alors que c'était une chair qui était entièrement dans le jus du fruit. C'était incroyablement juteux, et ces pêches étaient belles en plus, parce qu'elles étaient vraiment rondes, c'était des grosses pêches, et cette chair un peu rose, moitié crème, moitié rose, c'était extraordinairement appétissant. Donc on mangeait ça le matin, je me souviens, très tôt, et ou alors dans l'après-midi, comme ça, en passant, on cueillait un abricot. C'était merveilleux.
Nicolas Poilevé, dans cet atelier de cuisine préhistorique que vous aviez réalisé en décembre 2017 avec vos étudiants de l'école hôtelière de Paris, ça n'était pas des abricots et des pêches, mais des poires en dessert que vous proposiez. Est-ce que les poires avaient leur peau juteuse, comme le décrivait Dominique Bonnat? Est-ce que vous aviez réussi à trouver des poires équivalentes à ce qu'on trouvait? Je ne sais pas s'il y avait des poires, cela dit, il y a 10 000 ans.
Évidemment, le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les poires qu'on trouve, elles sont toutes issues de greffons. Donc, elles sont effectivement beaucoup plus grosses, beaucoup plus juteuses, beaucoup moins biscornues. Et là, on n'avait pas tellement le choix de ce côté-là. Et on avait aussi toutes ces contraintes de légumes qui sont impossibles à trouver, en fait, forcément, à l'époque. On parle de racines, on parle d'herbes, mais vraiment, vraiment axées là-dessus. Donc, la recette de poire a été tournée autour de des herbes, justement, du miel, des ressources qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Quoi.
Alors, elle parlait de retour, hein, retour à ses sources, retour à son enfance, retour aux fondamentaux. Eh bien, aujourd'hui, des nutritionnistes pensent qu'un retour à l'alimentation de nos ancêtres permettrait de résoudre des problèmes de santé publique. Est-ce que, et là je me tourne vers vous, Anne de Borde-Munoz, est-ce que l'alimentation paléolithique peut être un modèle ?
Je pense, oui, enfin... On est ce que l'on mange et je pense que ça c'est vraiment une base et si on mange vraiment des produits bruts qu'on transforme nous-mêmes et qu'on sait vraiment ce qu'on mange, je pense que ça peut être que bénéfice pour nous parce que la plupart des produits qu'on peut manger sont transformés, retransformés. La plupart des produits qui sortent de nos magasins, il y a des conservateurs, il y a trop de sel, il y a trop de sucre. Et que je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des maladies qui apparaissent au fur et à mesure.
Manger paléo, c'est sans gluten ni lactose, c'est des fruits et légumes frais, c'est des noix et des graines, je lis, hein, c'est avec ses fourchettes, des graines, des baies, de la viande, du poisson, des œufs, des super aliments et surtout de la gourmandise, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que vous réconciliez ceux qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent plus aujourd'hui.
Ouais. J'essaie toujours d'avoir la moitié de ma carte est végane parce que... Je me suis dit, en faisant un peu de recherche justement, je me suis dit que les hommes préhistoriques, des fois, avant d'attraper le mammouth, quand même, il fallait y aller, quoi. Donc, je pense qu'ils se nourrissaient beaucoup de végétaux et beaucoup de la cueillette. On dit chasseur-cueilleur, mais je pense qu'il y avait beaucoup de cueillette plus que de chasse. Après, je me retourne vers Pascal
Pic. Oui, absolument, je confirme, oui, absolument.
Oui, voilà. Pour moi, c'est important.
Qu'est-ce que vous pensez, Pascal Pic, de cette vogue du préhistorique dans les assiettes, de ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes paléo qui est importé des États-Unis, hein, mais qui effectivement est une mode aujourd'hui.
Je vais vous dire un secret. Ils appellent ça, dans un certain cas aussi, le Great Ape Diet, c'est-à-dire le régime des grands singes. Vous savez quoi ? Et dans le régime des grands singes, ils mettent du lait et des céréales. Franchement, dans la forêt tropicale, trouver du lait et des céréales, faut être sportif. Hein. Donc, il y a beaucoup de délire autour de ça. Donc, il y a aussi aujourd'hui une mode. Alors, les véganes mettent le doigt sur des difficultés aujourd'hui, mais tout à l'heure, Monsieur Poilevé a dit quelque chose qui est très important. Le problème du gras. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 60 ans, nous sommes sur de la viande de bœuf, persillée ou d'autres viandes plus grasses. Le gras est extrêmement rare dans la nature. Et le problème, c'est qu'une viande qui n'a pas de gras est une viande qu'on ne digère pas. On appelle ça la maladie du lapin, qui est une viande très sèche. Et justement, ça pose de réelles difficultés pour la cuisson, c'était dit, et pour la digestion. Et en fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la triperie était plus importante que la boucherie. Parce que le gras... Et dans les tripes, il est dans les viscères. Ça peut vous surprendre aujourd'hui, parce que vous parlez de tripes à la mode de Caen, tout le monde, oh là, c'est quoi ce machin? Ou les tripoux comme en Auvergne, je viens de l'Auvergne. Donc là, il faut rappeler ça aussi. Et moi, je trouve que c'est très intéressant ce qui est, toutes ces tentatives autour de la cuisine paléo, c'est de repenser un petit peu nos rapports à la nourriture, à la cuisson, sur la qualité des produits, sur la manière de réfléchir aux nouvelles formes de cuisson et, Monsieur Poilevé l'a dit, on peut cuisiner sans gras ou faire des associations, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est en ce sens que c'est une véritable innovation qui nous permet de repenser notre nourriture pour demain.
Nicolas Poilevé, comment vous interprétez-vous ce désir de retour aux origines ?
Oui, mais déjà, je pense que c'est une nécessité. Hein. On n'a pas tellement le choix. Hein. Notre avenir, il se joue plutôt de ce côté-là. Finalement, on a un retour aux sources. Quoi. C'est exactement ça. Par nécessité, on est obligé d'arrêter un peu de tous ces produits gras et des produits sucrés aussi, parce que nous, c'est du sucre. Aujourd'hui, c'est du sucre de synthèse qu'on voit. Hein. Jadis, c'était que du miel, finalement, pour sucrer les aliments. Alors, le taux couvrant du sucre est plus important dans le miel que dans le sucre dans la saccharose. Mais il n'empêche que, voilà, c'était leur seule façon de sucrer les produits, quoi. Donc, aujourd'hui, ben, voilà, on va en avant, on essaie de changer un peu nos habitudes et tout ça fonctionnera, quoi.
Qui vient dans votre restaurant toulousain, Anne de Borde-Munoz ?
Je crois que j'ai beaucoup de...
C'est pas des nostalgiques des chasseurs-cueilleurs,
non,
hein.
Non, je pense pas. Je pense que j'ai beaucoup de curieux. J'ai beaucoup de personnes qui commencent à prendre conscience qu'il faut mettre un sens dans nos assiettes. Qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Pourquoi pas revenir à régime, ça me dérange de dire régime paléo d'ailleurs, je voulais revenir dessus, c'est plus un mode de vie. À l'époque, il marchait beaucoup, on n'était pas sédentaire comme on est. Moi, la plupart de mes clients, et comme on a commencé avec Audrey, c'était avec des sportifs de haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des sportifs de haut niveau et je pouvais vraiment m'amuser avec eux parce qu'ils avaient vraiment cette énergie et cette chose de bouger plus. Enfin, la plupart de même entre, enfin, autour de nous, on est sédentaire, on ne bouge pas, on est toute la journée sur notre chaise. Nous, notre régime, il y a aussi toute une philosophie autour de ça. On s'amuse à faire du sport avec nos clients, on s'amuse à proposer des choses pour vraiment qu'il y ait ce côté bouger plus. Enfin, il faut bouger, il faut manger, il faut arrêter d'être sédentaire, il faut se redresser, il faut pas être toujours comme ça sur une chaise. Enfin, ouais, il y a tout autour. Enfin, voilà, je voulais juste revenir sur régime. Moi, je préfère mode de vie J'adapte plus à un mode de vie.
Et voilà. Si on regarde ce qu'il y a dans l'assiette, en tout cas à l'ouverture, on pouvait lire sur votre carte patates douces à Selbach, navets et betteraves, bolo avec tagliatelle de légumes ou le silex bowl. Alors deux questions, qu'est-ce que c'est le silex bowl et est-ce que la carte évolue en fonction des saisons?
Tout à fait, la carte évolue en fonction des saisons. Alors le silex bowl, c'est une grosse salade où j'essaye toujours de mettre un légume racine, toujours une baie, toujours une noix, toujours un aliment vivant. J'essaye vraiment de m'amuser autour de ça pour faire un espèce quelque chose de complet qu'on n'a pas l'habitude de manger, je crois. Même parfois, moi, quand je fais mes silex bowls, je me dis, c'est joli. Est-ce que les goûts vont ensemble? Je sais pas. C'est que des bons aliments et j'ai envie d'essayer et j'ai envie de le partager à mes clients et souvent ça marche. J'ai de la chance.
Il faisait du joli en un mot, Pascal Pic.
Comment ça?
À l'époque du paléolithique, il pensait qu'il faisait du joli.
Du joli. Ah, ben, l'art préhistorique, les peut-être, parures, bien sûr, l'esthétique est importante, bien évidemment. Pas tous les jours, comme nous, mais certainement c'est important, oui.
Alors, cher Pierre, vous nous avez écouté attentivement. Vous avez entendu que nous recevions la chef d'un restaurant intitulé Silex et Fourchette, qui nous a bien dit qu'il ne mangeait pas par terre ses clients autour d'un feu. Et donc, vous vous êtes dit, tiens, si je parlais de la table et des couverts, et même peut-être de la salle à manger.
Eh ben oui, je me suis dit surtout qu'il est d'abord temps de dresser la table. Et oui, ça commence comme ça, parce que s'il faut la dresser, c'est bien qu'elle ne l'est pas. Et de fait, la table que nous connaissons tous en France et qui reste le meuble central de toutes les convivialités familiales et amicales n'a pas toujours occupé cette place essentielle. Au Moyen-Âge, la table est une simple planche que l'on dresse justement sur des tréteaux et que le maître de maison pose dans une pièce qu'il choisit en fonction de sa luminosité et de sa température, en hiver près du feu et en été dans la pièce la plus fraîche. La table est recouverte d'une nappe qui a l'avantage de cacher les tréteaux, mais qui sert aussi de serviette commune. En fait, les meubles importants sont surtout le banc, d'où l'on tirera d'ailleurs le mot banquet, et le buffet. Il faudra donc attendre la Renaissance pour que la table devienne un objet important, tant du point de vue de l'ébénisterie et de la décoration que du point de vue de son rôle social, voire politique et diplomatique. Curieusement, la table à manger n'a d'ailleurs pas entraîné l'apparition immédiate de la salle à manger. Chez les nobles, les repas étaient pris dans les antichambres ou les cabinets. Pour le reste de la population, c'était plutôt à la cuisine ou près du feu dans la salle commune. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle, en commençant par la bourgeoisie des villes, que la cuisine va prendre une place périphérique dans les habitations et qu'une pièce va être dévolue au repas. Et c'est là qu'il faudra donc attendre 2 siècles pour que, sous le règne du souverain suédois Ikea, la cuisine se retrouve au centre.
Et donc, maintenant qu'on a une table et une salle à manger, eh ben c'est, on arrête de manger avec ses doigts, c'est ça?
Ben oui, Caroline, même si la chose n'est pas aussi évidente qu'on ne l'imagine. L'apparition des couverts apparaît plus en effet une construction sociale que comme une nécessité naturelle. Et pendant bien longtemps, personne n'en voit vraiment l'utilité. La fourchette qui, exclusivement en or, parvint de Venise à Florence, d'où Catherine de Médicis l'introduit à Versailles, remportant un succès très très relatif. Louis XIV lui-même d'ailleurs continuait à manger avec les doigts. La fourchette n'est absolument pas naturelle et ceux qui l'utilisent passent pour d'affreux snobs. D'ailleurs, son usage se développa essentiellement dans un premier temps pour des raisons de mode vestimentaire. C'est en fait les fraises, ces collerettes très importantes, qui firent que l'on trouva commode pour ne pas les transformer en torchons d'utiliser l'instrument. Mais au-delà de l'objet lui-même, c'est en fait tout le rapport à la nourriture qui est en jeu. Aujourd'hui, de nombreux chefs n'hésitent d'ailleurs pas à présenter des plats à déguster exclusivement avec les doigts. Comme par exemple le chef italien Riccardo Camanini, dont vous avez apprécié, Caroline, le travail dans les récentes Bonnes Choses consacrées à l'exposition Cookbook, et qui n'hésite pas à vous faire débuter votre repas avec, tenez-vous bien, un carpaccio de bœuf fourré d'un foie de lapin, à déguster sans aucun couvert. Et c'est vrai que la sensation des textures des aliments sous les doigts ajoute un rapport plus direct à la nourriture, plus sensuel, permettant de retrouver nos racines de mangeurs préhistoriques.
Oui, et la vogue du préhistorique et du paléolithique n'a pas de limite. Merci beaucoup Pierre Hivernin, cette chronique est à retrouver sur le site de l'émission et sur le site d'Alimentation Générale. Et un grand merci à nos 3 invités de ce jour, Pascal Pic, Anne de Borde-Munoz et Nicolas Poilevé. Et bien sûr, les bonnes choses se poursuivent en réécouté en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Aïgoui Chichkoyan, Stéphanie Villeneuve, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Anthony Thomasson, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.